Scénario Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. En cette période de pandémie à laquelle l'Égypte n'a pas échappé, le président Al-Sisi et son gouvernement ont toujours l'œil tourné vers toute forme d'opposition. Et s'ils n'ont pas hésité à relâcher des prisonniers de droit commun à cause du coronavirus, ils ont à l'inverse intensifié leur répression contre les représentants de la société civile. De nombreux défenseurs des droits, déjà en prison préventive, ont été inculpés pour de nouvelles raisons, parfois fantaisistes, souvent infondées. C'est le cas de Rami Shaat, responsable du mouvement du boycott d'Israël, BDS, en Égypte, est très engagé dans la défense de la cause palestinienne. Son père, qui a été un proche collaborateur de Nasser, a aussi été ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. La situation de Rami a fortement empiré ces derniers jours, comme le confirme son épouse Céline Lebrun. À suivre la revue de presse « Regard croisé sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Céline Lebrun.
Bonjour Éric Bataillon.
Votre époux Rami Shaat est en détention provisoire en Égypte depuis juillet dernier. Nous avions évoqué son cas avec vous, c'était fin janvier je crois. Il avait été arrêté 10 jours après un coup de filet des autorités égyptiennes contre 19 entreprises accusées d'appartenir à la confrérie des frères musulmans qui étaient suspectées de financer, entre guillemets, un complot contre l'État. Alors parmi les personnes arrêtées, avec votre mari, figurait également Ziad El-Elaimi, qui est un militant ancien parlementaire, militant laïque. Alors après avoir disparu pendant 36 heures, votre mari était réapparu devant le parquet de la Sûreté de l'État sous l'accusation d'assistance à un groupe terroriste lié à ce complot, ce que vous-même et sa famille également avez toujours dénoncé. Céline Lebrun, il semble que les autorités politiques et judiciaires aient décidé d'aller plus loin dans leurs accusations. Que reproche-t-on désormais à Rami ?
Eh bien, écoutez, alors on a découvert avec stupeur le 18 avril dernier que mon époux avait été ajouté à la fameuse liste égyptienne des entités et individus terroristes. Donc c'est une décision qui s'est prise en l'absence de Rami et de ses avocats. Et semble-t-il qu'il aurait aussi été ajouté avec Ziad El-Halimi à une nouvelle affaire dont nous ignorons absolument tout. Nous ne savons pas aujourd'hui quels sont les nouveaux faits, les nouvelles accusations portées à l'encontre de mon mari. Donc je suis malheureusement pas en mesure de répondre à votre question. J'aimerais pouvoir le faire. Malheureusement, le manque de transparence du système judiciaire égyptien me l'empêche.
Mais quelles sont les conséquences pour votre mari de cette nouvelle série d'accusations ? Conséquences matérielles ?
Alors les conséquences très concrètes du fait d'être ajouté à la liste égyptienne terroriste, c'est que aujourd'hui donc mon mari peut être donc interdit de voyager, son passeport confisqué, ses biens et ses avoirs gelés. Donc voilà, c'est face à cette situation qu'on se retrouve et bien évidemment sa réputation qui est ternie aussi par cette accusation. Donc et c'est je pense le premier objectif des autorités égyptiennes derrière cette décision, c'est de vouloir détruire la réputation bien établie de mon mari.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ou avec ses avocats ces derniers jours, dernières semaines ?
Alors avec lui, malheureusement, je n'ai pas de contact depuis 2 mois maintenant, depuis que les autorités égyptiennes ont suspendu les visites. À savoir que les contacts que j'avais avec lui jusque-là étaient des contacts indirects, puisque ayant été moi-même expulsée d'Égypte lors de l'arrestation de Rami il y a 10 mois, je n'ai pas vu et parlé à mon époux depuis. Donc c'est une situation, bien là, vous le comprenez, une situation humaine très difficile. Aujourd'hui, il y a des tentatives, notamment via le ministère des Affaires étrangères français, pour essayer d'établir un contact dans l'attente d'une libération. Malheureusement, voilà quelle a été la réponse des autorités égyptiennes.
Dans un communiqué, son père, Nabil Shaat, votre beau-père, qui est un ancien collaborateur de Nasser et aussi un ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, écrit ceci, je le cite, « Rami a toujours été un jeune homme fier de sa double nationalité, qui a passé sa vie à défendre sa patrie, qu'il s'agisse de l'Égypte ou de la Palestine. Dans sa quête de liberté, de justice et d'égalité, il s'est opposé à l'occupation israélienne en s'engageant dans le mouvement de boycott BDS d'Israël, qui est un mouvement pacifique international visant à faire pression sur Israël et sur les entreprises impliquées dans les crimes israéliens pour les contraindre à respecter les résolutions et le droit international. Céline Lebrun, pensez-vous que cet engagement pour la cause palestinienne et contre l'attitude d'Israël soit la véritable raison des accusations portées contre lui en Égypte ?
Je pense aujourd'hui qu'en effet, cela joue un rôle dans ce qui arrive à mon époux. Après, mon époux a aussi joué un rôle dans la révolution de janvier 2011. Et on voit depuis plusieurs mois, voire quelques années, une volonté aussi de, j'ai envie de dire, de revanche à l'encontre de tous ceux qui ont pu jouer un rôle dans cette révolution. Quel est le prix que paye aujourd'hui mon époux ? Je ne sais pas. Je pense que c'est probablement un peu des deux. Son engagement pour la révolution en janvier 2011 et au cours des années qui ont suivi, et son engagement dans le mouvement BDS et le refus de la politique étrangère égyptienne en ce qui concerne la collaboration avec Israël. Sachant que mon mari, voilà, a été arrêté 10 jours après la conférence de Bahreïn, qui devait sceller l'aspect économique du deal du siècle de Trump. Conférence à l'occasion de laquelle mon époux a dénoncé la participation de l'Égypte de manière très vocale.
Et justement, les efforts de la France, de la diplomatie française pour obtenir la libération de votre époux, est-ce que cet effort également s'est heurté à cette réelle politique égyptienne, selon vous ?
Écoutez, les efforts sont en cours, comme les autorités françaises, le ministère des Affaires étrangères français a pu l'indiquer lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Ils suivent de près le cas de mon époux et ils sont en contact direct avec les autorités égyptiennes. Donc, je ne sais pas aujourd'hui où cela en est, mais je veux garder espoir. Et
oui. Ouais, je vous sens très émue, Céline Lebrun, parce que la situation de votre mari est quand même difficile, évidemment, dans les prisons surchargées d'Égypte. Et est-ce que vous craignez pour sa vie, dans la mesure où ces prisons sont surchargées et qu'il y a aujourd'hui quand même la pandémie du Covid-19 en Égypte ?
Oui, absolument. Et c'est d'ailleurs, ça fait donc plus de 2 mois que nous lançons des appels à ce que mon époux, mais aussi d'autres détenus soient libérés, notamment les détenus en détention provisoire ou les détenus, comme on a pu le voir dans d'autres pays, qui sont en fin de peine ou qui sont en prison pour des crimes, des délits mineurs. Malheureusement, la réponse des autorités égyptiennes ne semble pas aller dans le sens de ces demandes. J'en suis désolée et je suis très inquiète parce que aujourd'hui, ce qu'on voit en Égypte, c'est une augmentation des cas, alors que dans beaucoup de pays comme la France, le nombre de décès ou de cas diminue. Donc, c'est très inquiétant. Mon époux, aujourd'hui, dans une cellule de 25 mètres carrés avec 18 autres codétenus. Donc, je vous laisse imaginer l'espace que cela laisse à chacun. Et vous comprenez bien que dans cet espace-là, la distanciation physique est un concept abstrait. Donc voilà, les prisons égyptiennes ont toujours été des incubateurs de virus, de maladies. En janvier dernier, mon mari a attrapé la gale suite à l'arrivée d'un nouveau codétenu qui les a tous contaminés. Donc voilà, nous sommes très très inquiets, surtout que nous ne savons rien des mesures qui sont prises aujourd'hui pour les protéger très concrètement. Les visites ont été suspendues, mais par ailleurs, les gardes continuent d'aller et venir. Les gardes, le soir, rentrent chez eux, ils prennent les transports publics avant de revenir le lendemain matin à la prison. Donc, les autres voies de contamination sont elles, ouvertes.
Oui, vous avez dit il y a quelques instants que Amnesty International, notamment, ou d'autres organisations de défense des droits de l'homme réclament la libération des défenseurs des droits dont fait partie votre mari. Mais on voit bien qu'en Égypte, on libère plutôt des prisons, des prisonniers de droit commun. Est-ce que c'est compréhensible comme décision de la part du gouvernement ou est-ce au contraire une stratégie pour peut-être se débarrasser des défenseurs des droits ?
Oui, aujourd'hui, je vous avoue que je ne comprends pas du tout la stratégie égyptienne. On a vu de libération exceptionnelle il y a quelques jours à l'occasion de la fête de la libération du Sinaï, donc fête nationale égyptienne. L'Égypte relâchait des meurtriers, des dealers de drogue, etc. Alors qu'à l'inverse, elles maintiennent leur joue sur les défenseurs des droits humains et les prisonniers politiques qui n'ont rien à faire en prison et qui ne représente aucun danger pour la société. Donc c'est très inquiétant et je n'arrive pas à comprendre.
Quelle est l'étape prochaine pour tenter de faire sortir votre mari de sa prison ? Est-ce qu'il y a des démarches nationales ou internationales que vous avez déjà engagées et qui sont en cours ?
Oui, bien sûr. La campagne pour la libération de mon mari va continuer avec chaque fois un soutien de plus en plus important. Et voilà, c'est réconfortant que malgré cette décision qui a été prise il y a 2 semaines d'ajouter mon mari à la liste terroristes. Cela n'a fait qu'amplifier le soutien dont Marie bénéficie, car personne n'est dupe de ces accusations qui sont portées contre lui. Donc nous allons continuer, que ce soit au niveau national, au niveau international, des différentes organisations, mais aussi des acteurs locaux. Suite à cette décision, la société civile et les forces politiques égyptiennes se sont mobilisées pour dénoncer cette décision. Donc aujourd'hui, la campagne continue, plus déterminée que jamais, jusqu'à la libération de mon mari.
Une libération que vous espérez la plus proche possible, évidemment.
Bien évidemment, car nous ne faisons pas tout ça de gaieté de cœur. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est que mon mari soit libéré, de pouvoir retourner à notre vie tranquille. Cela ne me fait pas... Je ne fais pas ça, par plaisir. Je voudrais, en cette occasion de vacances, que ce soit les vacances de Pâques ou le mois du Ramadan, pouvoir être avec ma famille et célébrer, qui plus est, dans un temps aussi difficile que celui... d'une pandémie qui nous touche tous. Ne pas pouvoir être auprès de Rami est extrêmement difficile.
Merci Céline Lebrun pour ce témoignage sur la situation de votre mari Rami Chahat.
Je vous remercie Eric Bataillon.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous lisons maintenant la presse régionale Journaux arabes et israéliens avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la crise du coronavirus est toujours en tête des préoccupations de la presse arabe.
Oui, et les journaux notent que les nouveaux cas continuent à augmenter, mais à un rythme moins important que la semaine dernière. On en était à 136 000 cas dans le monde arabe ce vendredi, soit une augmentation de 23% par rapport à vendredi dernier. Mais la semaine dernière, l'augmentation de nouveaux cas était presque de 50%. Le nombre de morts a aussi augmenté pour atteindre presque 2300. Mais le problème qui commence à affecter plusieurs pays arabes est le manque croissant de lits dans les hôpitaux pour soigner les cas graves. Manque aussi de place pour mettre les malades moins graves en quarantaine. On a recours aux cités universitaires et aux hôtels de jeunesse pour les plus pauvres et aux hôtels pour les plus riches. Le personnel médical qui commence à payer un lourd tribut au Covid-19 réclame dans plusieurs pays un confinement total pour 2 semaines. Mesure difficile à appliquer en cette fin de Ramadan, surtout qu'elle signifie d'enfermer les gens durant le Eid.
Alors à l'inverse, Michel Paul, à la une de vos journaux, non plus le coronavirus, mais la politique.
Et c'est probablement le meilleur signe du retour à une certaine normalité. Le coronavirus disparaît des premières pages des journaux israéliens pour céder la place à la formation du gouvernement. La nouvelle coalition, après quelques soubresauts de dernière minute, devrait voir le jour ce dimanche, mais on se bouscule littéralement au portillon et cela pose des problèmes au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Explication, ce sera le plus grand gouvernement avec de 32 à 36 ministres, mais cela ne suffit pas pour contenter tout le monde. La révolte des portefeuilles ministériels, titre Marive. Dans la même veine, un autre journal parle de ministres sans portefeuille. Plusieurs journaux citent avec sarcasme les nouveaux ministères créés de toutes pièces pour tenter de satisfaire des candidats à ces postes, particulièrement visé Orly Lévy, une transfuge du Parti travailliste qui devient ministre du soutien et du progrès communautaire. On liquide, proclame Yediot Aharonot, qui critique la démarche de Netanyahou, particulièrement en période de crise. Et puis aussi, dans les journaux, le parti Yamina, l'alliance de la droite religieuse nationaliste, qui reste en dehors de la coalition, à l'exception de l'un de ses membres. Conclusion du quotidien libéral à Haaretz sur ce futur gouvernement, de mal en pis.
Et puis dans la presse aussi, Michel, la carte d'identité de cette nouvelle coalition.
Oui, eh bien, ce sera le 35e gouvernement israélien composé, sauf changement de dernière minute, de 8 partis et jouissant d'une confortable majorité parlementaire. Dans la presse, les promesses électorales, en premier lieu l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, la guerre contre la corruption, alors que, rappelons-le, le Premier ministre lui-même est sous le coup de 3 actes d'accusation, notamment pour précisément corruption, dans le collimateur du gouvernement aussi, le système judiciaire, le status quo religieux et même, Eric, la légalisation du cannabis.
Alexandre, les journaux arabes sont préoccupés par la situation économique des pays de la région, très impactés par la pandémie.
Oui, et des pays dont les économies dépendent soit du pétrole, soit du tourisme. Alors, deux secteurs qui sont totalement sinistrés. Le baril de pétrole est aux alentours de $30, ce qui signifie une perte de presque 50% des revenus pour les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Koweït et Qatar notamment. Perte aussi pour l'Algérie, la Libye et l'Irak, sans oublier les petits producteurs comme le Soudan et l'Égypte. Quant au tourisme, il est pratiquement à zéro en Égypte, au Maroc, en Tunisie, Jordanie, Liban et Émirats. Ces derniers perdent sur les deux tableaux. Mais si les pays du Golfe peuvent puiser dans leurs réserves, la plupart des autres pays arabes sont obligés d'emprunter pour combler le déficit. Des éditorialistes évoquent aussi une grogne sociale due au chômage et à l'appauvrissement qui risque de se transformer en explosion.
Mais le virus a aussi créé de nouveaux emplois, Alexandre.
Oui, et des journaux se font l'écho de ces nouveaux métiers. Alors au Liban, le pays où il faut vivre avec style, on a vu fleurir des maisons de mode du masque sur mesure. On choisit la coupe, la forme, le tissu et les motifs. Les prix commencent à une douzaine d'euros, mais n'ont pas de plafond puisqu'un journal évoque des masques cousus de fil d'or pour des princesses du Golfe. En Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, le nouveau métier est celui de loueur de masques. On les trouve devant les banques, les jours de paie, des pensions des retraités. Comme il est interdit d'entrer sans masque, les loueurs proposent un masque chirurgical pour 10 centimes à rendre à la sortie. En deux fois, le masque a été rentabilisé, ensuite, c'est tout bénef.
Alors un peu de coronavirus malgré tout, Michel. Chez vous, le déconfinement est en phase finale en Israël.
Adieu les capsules, bonjour le retour à la routine. C'est ainsi qu'un quotidien accueille la décision de reprendre les activités scolaires sans restriction à compter de ce dimanche. On commencera la journée dans les écoles en se lavant les mains et les enfants les plus grands devront porter des masques. Ils sont partis sans payer, titre un quotidien qui fait l'état des lieux, notamment en ce qui concerne les laissés pour compte de la crise économique, les restaurateurs qui tombent entre les chaises. Pas de date de réouverture prévue à ce stade. Les responsables du Trésor se sont montrés très avares, souligne un commentateur.
Et votre image hebdomadaire, Michel Paul ?
Eh bien, c'est la photo de l'ultra-secret institut biologique de Nes Tziona, au sud de Tel Aviv, un centre de recherche du ministère israélien de la Défense qui a fait parler de lui ces derniers jours en proclamant la mise au point d'un médicament anti-corona, un dossier à suivre dans Yediot Aharonot.
Merci Michel, merci Alexandre. Deux informations en bref pour conclure cette émission. La première nous vient d'Iran, où la loi du talion est en vigueur dans le cadre de la charia. Dimanche dernier, selon cette loi, Majid Movahedi aurait dû être aveuglé par le versement de gouttes d'acide dans les yeux pour avoir défiguré et aveuglé Amen et Barmi, qui refusait ses demandes en mariage en 2004. Heureusement, au dernier moment, Amené a renoncé à son droit, les ONG internationales ayant fait pression sur les autorités iraniennes qui ont, à leur tour, fait pression sur la victime pour éviter ce barbarisme. L'autre info nous vient de Tunisie, où tradition religieuse et modernité démocratique font parfois mauvais ménage. C'est ainsi qu'une blogueuse, Emna Charghi, a été entendue par la brigade de la protection sociale de la Casbah pour avoir relayé un tweet humoristique, Sourate Corona, un petit texte qui aborde le sujet de la pandémie du Covid-19 en reprenant les codes des versets coraniques. De quoi enflammer les réseaux sociaux entre les partisans de la liberté de conscience et ceux qui regrettent le temps du takfirisme, une doctrine qui prône un islam rigoriste et violent. Emna Charghi est malgré tout convoquée au tribunal le 28 mai prochain aux grandes dames des défenseurs des droits humains. Orient Hebdo, mise en onde. Mathias Golchani, on se retrouve samedi prochain à la même heure. Prenez soin de vous.
Religion du monde.